C'est un personnage qui a une influence folle encore aujourd'hui sur les jeunes gens, surtout les très jeunes artistes, et qui a gardé cette influence qu'il a toujours eue du reste, mais il est tout à coup devenu plus fort de nouveau aujourd'hui, après une trentaine d'années dans lesquelles, au fond, il n'a presque pas fait de la peinture.
Bill Copley.
Tout le monde parle de l'effet qu'il n'a pas peint pour plusieurs années. Mais c'est pas vrai. Parce que il est peut-être le seul qui a découvert que la peinture, c'est une chose qui, dans ce siècle, certainement, qui a quitté la toile. Et peu à peu, Marcel a poussé ça jusqu'au point où son art a quitté la toile et a devenu la vie.
En abandonnant la toile, son art est devenu sa propre vie.
Sa propre vie, c'est ça.
Le positif, le négatif et l'indifférent ne suffisent pas pour expliquer, pour donner quelque chose. Vous me direz, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je n'en sais rien, je vous dirai, on le dira plus tard. Peut-être si j'ai fait quelque chose, ça m'est égal. C'est encore une chose qui m'est égale.
Bye. Bienvenue sur ce premier épisode de l'avenir de l'art. Ce soir, je reçois l'équipe de Virtual Dream Center, application numéro 4, c'est bien ça, 4.0. Jean-Baptiste Langlais.
Oui, merci Quentine, l'invitation. Bonsoir.
Alors, on a autour de la table ce soir différents contributeurs du projet. Jean-Baptiste Gelet, Guillaume Constantin.
Élisan Deval.
Et toi-même, donc, qui a lancé ce projet d'envergure virtuelle en 2016, c'est bien ça ?
Oui, on a commencé à réfléchir sur le projet il y a 4-5 ans. C'est un centre d'art virtuel qui existe par le biais d'applications qu'on peut télécharger par Internet. Donc là, on commence la quatrième année d'existence du projet. Et la semaine dernière, on vient de sortir la dernière application qui s'appelle Virtual Dream Center 4.0 avec les artistes qui sont présents ce soir avec nous.
Alors là, on a écouté quelques extraits sonores du premier projet.
Donc c'est une exposition de Nathalie Novin qui s'appelle Solid Space Failed, qui est une exposition c'est une exposition virtuelle, mais c'est un travail de sculpture. Et toute la bande son a été sound designée par le musicien Cliché.
Donc le principe en fait de ces espaces d'exposition virtuelle, c'est qu'ils amènent à des collaborations d'artistes et particulièrement au fur et à mesure des versions à une dimension musicale, un mélange entre une construction de l'espace et du son.
Tout à fait, Glantine. En fait, c'est quand on parle d'exposition virtuelle, pour qu'on soit clair, en fait, c'est des expositions en réalité virtuelle. Donc, et par la réalité virtuelle, c'est essentiellement le médium du jeu vidéo qui, par essence, est multimédia et qui convoque plusieurs dimensions visuelles et sonores. Et donc, chaque travail d'artiste, chaque exposition, se pose la question du son. Ce soir, on a les différents artistes. Ça sera intéressant de discuter de cela avec eux.
Pour présenter cet univers, pour essayer de le décrire aux auditeurs, je vais donner la parole à Élise.
Bonsoir.
Donc, on est dans une architecture à Tripoli, une architecture bien connue.
Bien connu, je ne sais pas si c'est bien connu. En tout cas, effectivement, c'est une architecture qui est implantée dans un désert et qui est un projet qu'avait réalisé Niemeyer pour une foire internationale. Et Nathalie Novin, qui est une artiste invitée pour le Virtual Dream Center, a souhaité implanter son exposition au Virtual Dream Center à l'intérieur de ce projet de Niemeyer, qui est un projet qui a été avorté, en fait, il n'est pas terminé. Et je crois, si je ne me trompe pas, il est occupé par des skateurs, par des squatteurs, un peu comme ça, mais il est comme un lieu un peu lunaire et délaissé dans la ville de Tripoli, au Liban. C'est une sorte de ville jumelle. Et donc, à l'intérieur de cet espace qui a été modélisé dans la virtualité, Nathalie a implanté des sculptures qui font partie de son vocabulaire de forme, en fait, qui sont créées pour l'occasion, mais qu'elle a extrait quand même d'un répertoire de formes qu'elle utilise dans son travail. Voilà. Et donc il y a plusieurs modalités de formes qui se développent à l'intérieur de cet espace. Il y a des concrétions de formes, il y a des répétitions de formes, et surtout ce qu'elle a souhaité faire dans cet espace, c'était d'expérimenter des formes qui se modifiaient dans le temps, qui se métamorphosaient dans le temps, et qui prenaient des formes différentes. En fait, comme tu disais tout à l'heure, tu posais la question à Jean-Baptiste du rapport entre le son et l'aspect visuel. Et effectivement, c'est un aspect qui est important dans les expositions, il me semble, dans le Virtual Dream Center. Et Nathalie, elle a fait appel à un musicien qui s'appelle Cliché et qui a créé un environnement sonore qui vient accompagner l'exposition et en fait qui sert de point d'appui et de ponctuation parfois de l'espace et des sculptures. J'ai un peu discuté avec elle de son projet pendant qu'il se construisait et justement pendant que le son était élaboré. Et elle souhaitait surtout pas que le son vienne comme un habillage sonore un peu qui venait, je sais pas, de manière qui venait mimer en fait d'une façon sonore les volumes, mais de quelque chose qui s'insérait plutôt dans les creux de l'espace et qui voilà, offrait une autre, enfin qui augmentait la perception plutôt, quoi. Voilà, je sais pas si c'est très clair.
Très bien, on va se replonger dans l'ambiance sonore tout de suite avec Oriental, un autre passage. de retour sur l'avenir de l'art. Merci donc pour cette première présentation.
Alors donc là, c'est ce dont on parle, c'est la dernière application de Virtual Dream Center qui comprend 4 expositions. Donc chaque application est conçue comme un cycle d'exposition. Et là, Élise nous parlait de l'exposition virtuelle de Nathalie Novin avec en bande son le sound designer Cliché.
Tu as pensé et vous concevez tous ensemble le Virtual Dream avec un logiciel de jeux vidéo.
Oui, c'est le logiciel qu'on utilise, c'est un moteur de jeu, donc il y a tout cet intérêt de faire de calculer la 3D en temps réel et donc de permettre une interactivité et donc une visite à proprement dit d'espace virtuel. C'est pas des vidéos, c'est pas des images fixes, mais c'est une promenade en temps réel dans un environnement virtuel. Et chaque artiste s'accapare cette situation et propose une interprétation artistique originale.
Le visiteur, avec ses manettes et son joystick, va visiter et explorer les espaces sans finalement qu'il y ait énormément d'indications. Le parcours est très libre. Comme il n'y a pas forcément des niveaux à atteindre, mais en tout cas, il y a des complexités à découvrir au fur et à mesure des explorations, des détails cachés.
C'est-à-dire que on se saisit du médium du jeu vidéo, mais on l'utilise d'une manière artistique qui reprend plus la situation d'une visite d'exposition. Et ça correspond à voilà, visiter une installation, une exposition, et on appréhende des œuvres qui soit existent d'ailleurs dans la réalité, soit ont été faites spécialement pour ce médium par les artistes. Là, dans l'exposition dont a parlé Élise Vandeval, l'exposition de Nathalie Novin, Nathalie s'est appropriée l'espace d'Oscar Niemeyer, en a fait le décor de son exposition et ensuite a modélisé, a dessiné tout un nouvel ensemble de sculptures spécialement pour cet espace virtuel.
Donc quand tu sors une application, là depuis 2016 on a eu plusieurs versions.
Oui.
Le rythme, c'est une application par an dans laquelle on trouve plusieurs expositions.
Alors le rythme, il essaye de reprendre celui d'un centre d'art normal, entre guillemets. Et ce n'est pas une par an, mais c'est plutôt 2 ou 3 par an. Et afin d'avoir un rythme un peu soutenu, mais voilà, pour reprendre, avoir une activité... avoir des variations.
Mais est-ce qu'au niveau du design, est-ce qu'au niveau des possibilités, il y a une évolution dans les paramètres ?
Chaque application intègre de nouvelles expositions. Donc à chaque fois, c'est des nouveaux artistes et des nouvelles œuvres. Et donc, il y a une évolution naturelle. C'est à chaque fois des propositions différentes, des architectures différentes. Et c'est vrai que là, c'est la quatrième année du projet, et techniquement, ça s'est complexifié, ça a évolué. Et en fait, à chaque fois, se pose la question de cette question du virtuel et comment les artistes pensent la chose, conçoivent la chose, et ça sera intéressant là, de discuter avec les artistes présents, et on constatera que chacun a appréhendé la chose d'une manière extrêmement singulière, et au fur et à mesure, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'au fil des applications, des expositions, il y a très peu de redites en fait, et la plupart des artistes ils développent leur propre univers et appréhendent cette possibilité d'espace virtuel d'une manière très propre en fait, et assez éloigné finalement du jeu vidéo. On reprend des codes du jeu vidéo, mais on en fait des choses plus contemplatives, plus artistiques, plus... Voilà.
Et du coup, c'est aussi des déclinaisons de différentes appréhensions qu'on peut avoir du virtuel. Élise Vandeval, je te redonne la parole. Donc toi, tu participes à l'une des 4 expositions qui sont sur cette dernière version.
Et tu nous présentes aussi le projet de Nathalie Novin, qui est l'une des participantes sur une autre exposition, mais tu t'es intéressée à son travail et tu as écrit aussi sur sa collaboration avec Clichy. Et donc, c'est vrai que pour commencer avec le projet de Nathalie et cette reconstitution de ces bâtiments de ce Carnet Meilleur, ça donne une image assez... elle utilise déjà un lieu qui est chargé de cet effet de mirage pour redoubler une vision un peu fantasmagorique. Tu décris son travail et tu parles tu parles du virtuel et tu parles de vertu pour décrire son travail. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le chemin mental de ta description ?
L'idée du Virtual Dream Center, c'est d'accompagner les expositions d'un texte critique ou bien parfois de textes plus littéraires ou poétiques même. Et donc voilà, je connais assez bien Nathalie, j'ai été amenée à écrire pour ce projet un petit texte dans lequel je parle de virtus. Donc c'est, je ne sais pas si c'est la même étymologie que pour la vertu, mais en tout cas c'est l'étymologie pour virtualité. Et en fait, la virtus, c'est ça, en latin, ça vient du grec, c'est dérivé du grec qui est dynamis et qui en latin devient la virtus et qui est la puissance. Et en fait, ce qui m'intéressait simplement de dire à travers ce terme de virtus, c'était la manière dont le projet d'Annie Meyer, dans le fait qu'il soit inachevé, il portait la puissance, une puissance, c'est-à-dire une potentialité d'être actualisé, mais qui restait en suspens. Et en fait, Nathalie, j'avais l'impression qu'elle avait fait un chemin tout à fait inverse et opposé à ça, et donc quelque chose qui contraignait le principe même de virtualité dans sa volonté de produire des sculptures qui épuisaient toutes les possibilités de formes simples, de cônes, de sphères et autres polyèdres qu'elle utilise dans son travail, et qui constituent un vrai vocabulaire de formes chez elle, qu'elle souhaite complexifier jusqu'à épuiser toutes les possibilités de ces formes. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis comme ça, mais en tout cas, il y avait un jeu d'opposition entre ce geste avorté de Denis Meyer et le geste d'épuisement, au contraire, du geste de sculpteur de Nathalie.
Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quand tu parles de... Quand tu parles du vide dans le texte, il y a aussi un moment où on parle de jeu, et non pas du jeu vidéo, mais du jeu en termes comme la jonction entre deux parties d'une pièce, qui est quelque chose qu'on peut rencontrer en sculpture quand on fait des assemblages. Et ce jeu, c'est une question de vide aussi, l'idée de présence de vide. Et ce double sens sur le mot jeu, je la trouve intéressante pour parler du Virtual Dream Center, parce que Jean-Baptiste, tu décrivais ces espaces comme des expositions traditionnelles, mais contrairement aux murs d'exposition, on a la plupart du temps l'habitude de découvrir des œuvres à notre époque. Il y a une absence, à la fois c'est des projets où il y a un travail d'architecture et de construction d'espace, mais il y a aussi tellement d'espace, c'est un projet tellement respirant, les paysages dans lesquels on rentre, ils sont quasi infinis, enfin très dégagés. Et les architectures aussi sont, on verra pour le projet de Jean-Baptiste Gelais, encore très dépouillées. Donc ça m'intéressait que tu nous parles de cette dimension qui finalement vide, une sorte de reconstruction d'un espace ouvert où les œuvres ne sont pas dans un mur, mais accrochées sur un mur, mais elles sont remises dans un contexte en fait.
Oui, absolument. Aujourd'hui, dans l'art contemporain, un des grands paradigmes, c'est le white cube, donc cet espace immaculé, blanc, qui met parfaitement en valeur les œuvres. Nous, ici, dans notre cadre du virtuel, finalement, le white cube se porte à l'architecture. Et c'est aux artistes de concevoir leur propre architecture. Donc c'est pour cela que l'architecture a une part primordiale dans l'ensemble du projet. Mais beaucoup d'artistes prennent du plaisir et s'amusent à jouer avec l'architecture de leur exposition.
Il n'y a pas vraiment d'ambiance suggérée pour les différentes versions, parce que je me souviens sur d'autres versions, il y avait quand même des espaces un peu plus fermés. Et là, en tout cas pour ces quatre propositions, les espaces sont ouverts. Enfin, si encore on peut parler d'espace, ils sont même complètement...
Alors au départ, on s'est posé la question de proposer une architecture aux artistes, mais en fait, nous, tout l'intérêt du virtuel, c'est justement la grande liberté qui est offerte. Et c'est cette liberté qu'on met en valeur. Et finalement, au fur et à mesure, on a décidé que les artistes étaient libres de dessiner, de penser leur architecture. Alors certains sont intéressés par cela, d'autres beaucoup moins. Ça serait intéressant que Guillaume Constantin nous parle de comment il a appréhendé l'architecture de son exposition virtuelle. Dans le cas de Nathalie Novin, justement, son projet d'exposition est parti d'un geste architectural qui a été de s'approprier et de retravailler le parc d'Oscar Niemeyer. Donc déjà, c'est pas un... je pense la plupart du temps que Nathalie fait des expositions, c'est dans des salles d'exposition. Là, elle a fait un virage à 180 degrés en faisant une exposition en extérieur, dans un espace ouvert, voilà, qui relève plus du jardin de sculpture.
Et donc c'est aussi sa première expérience en 3D.
Ça a été l'occasion pour elle de... Elle avait ce désir de travailler la 3D. Là, ça a été l'occasion pour elle de... Je pense que le mot... Tu parlais de jeu tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental. Elle a pris du plaisir elle s'est amusée à élaborer cette exposition. Et je pense qu'on sent cette dimension ludique dans sa proposition.
Et pour en revenir donc à l'idée de faire collaborer artistes visuels, entre guillemets, même si on s'aperçoit avec ce projet que les catégories sont un peu redéployées, mais artistes visuels et artistes sonores, ou en tout cas musiciens, c'est quelque chose qui était la donne évidente du début de ton projet.
Alors, personnellement, j'ai un grand intérêt pour la musique et ça m'a intéressé d'envisager l'art au sens large et pas confiné à des artistes plasticiens, à l'art contemporain, mais aussi d'inviter des musiciens, des architectes et, comme l'a dit Élise tout à l'heure, des écrivains. Et donc, d'emblée, on a essayé de travailler avec des musiciens, avec le prétexte que de la bande-son des expositions. Encore une fois, c'est vraiment au cas par cas. Certains artistes pensent eux-mêmes leur bande-son. Certains artistes refusent qu'il y ait une bande-son. C'était le cas d'une exposition précédente du peintre Terenzo González, où c'était du silence en exposition. Et c'était un choix fort. Mais voilà, ça... là, dans l'application actuelle, tout le monde a travaillé avec des musiciens.
Donc, pour faire un dernier passage à travers l'exposition de Nathalie, je me suis un peu promenée. Il faut connaître un petit peu comment manier le joystick pour pas rester buté soit par terre, soit sur un obstacle. Mais il fait très beau dans cette exposition. Il y a un très beau ciel qui se déploie et puis un horizon qui se perd dans des sortes de dans une marée basse tout autour du site. Un site dont on ressent l'immensité réelle. Et donc au détour des escaliers ou en tournant autour de ces sculptures, on peut parfois rentrer. Il y a des sculptures qui s'animent et il y a aussi beaucoup de marches, j'ai envie de dire, beaucoup de marches entre les différentes présentations. Tu disais que tu invitais parfois des écrivains et pour certaines versions des expositions, on a la possibilité, on le verra ensuite avec la proposition d'Élisée de Fusillé, mais la possibilité d'accéder à des documents écrits, des éditions. J'ai lu dans une interview cependant que tu avais limité les possibilités d'interaction pour sortir peut-être
du parallélisme avec le jeu vidéo.
Oui, notre parti pris, c'est de reproduire des situations de visite qui sont réalistes. Donc, c'est un effet qu'on produit, faire un effet de gravité. On empêche souvent qu'on puisse courir. On peut pas tirer sur les œuvres comme ça serait souvent. De base, le logiciel nous amène à ça. Ça, c'était des soustractions en fait qu'on a fait.
Oui, j'ai remarqué qu'on pouvait pas toucher les œuvres dans votre exposition.
Alors, mais c'est du cas par cas. Certains artistes, Mio Hanaoka par exemple, qui a exposé il y a 6 mois, elle, on pouvait voler dans son exposition. Donc on est tout à fait ouvert en fait aux propositions des artistes, et si quelqu'un décidait de faire un jeu de tir et que c'était justifié, ça, il n'y aura aucun souci.
Je ne savais pas qu'il y avait un drame, ça semblait si idyllique. Bon bah écoute, c'est une très bonne transition pour arriver au générique de l'Oasis, c'est ça le nom de l'exposition de Jean-Baptiste Gelais. À tout de suite. Vous êtes sur le menu de l'application Virtual Dream Center 4.0. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on trouve sur le menu ?
Donc là, j'ai le menu sous les yeux. Différentes possibilités s'offrent aux visiteurs. Il peut accéder à différentes expositions. Il peut visiter l'espace d'accueil qui est le projet d'urbanisme de Jean-Baptiste Gelais. Il peut voir les crédits et les différentes commandes.
En parlant des crédits, peut-être qu'il faudrait nommer les designers qui ont travaillé avec toi. Graphic designer, web designer, ils sont intervenus à quel moment ?
Alors le graphic designer est un apport originel dans le projet. C'est lui qui a conçu la typographie et la mise en page des différents documents. Le web designer a un rôle plus récent et il a remis, actualisé le site internet du projet.
Et donc votre collaboration, vous vous êtes rencontrés de manière professionnelle ou c'est des connaissances, donc Thomas Rochon et Tanguy Perraudeau?
Alors Thomas Rochon, c'est un typographe, enfin c'est un graphiste, mais sa spécialité est la typographie. Et on a été mis en connaissance par une amie artiste, Muriel Joya. Et le projet dans sa globalité fonctionne comme ça.
Très bien. Donc cette ambiance sonore, c'est à la fois le son du menu de l'application, et c'est aussi la bande-son d'Oasis. Est-ce qu'on parle toujours d'exposition ?
Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est pour moi, il s'agit d'une exposition, mais le sujet n'est pas... Là, on sort de l'art contemporain et on est dans l'architecture. Donc ce qui est exposé, c'est un projet d'architecture.
Oui, alors là, on a un pont avec la réalité qui commence à se complexifier. Parce que donc l'Oasis, le projet de Jean-Baptiste Gelet. Jean-Baptiste, j'ai ouvert ton micro, tu peux te joindre à nous.
Bonsoir.
C'est un projet en fait d'urbanisme qui est parti sûrement de représentation 3D, mais enfin avec impression 3D plane, comme il est de coutume aujourd'hui professionnellement de pouvoir présenter des projets d'urbanisme. Et il s'est transformé, il a été animé et il est devenu une exposition à part entière de Virtual Dream Center. Le point avec la réalité, c'est que donc, tu l'as créé vraiment à but de réalisation. Toi, tu es urbaniste. Et donc, on est projeté dans un univers qui potentiellement pourrait aussi être enfin, voir le jour en banlieue de Paris, puisqu'on est dans les architectures du Grand Paris, près d'une station de tram qui s'appelle Libre Pensée. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du Virtual Dream Center, mais qui est de l'ordre de notre réalité. Est-ce que tu peux nous parler donc, de cet appel à projet?
Oui. Alors,
ce travail que tu as fourni?
Alors, c'est deux projets, en fait. Donc ça, c'est la deuxième projection, si on veut. Qui est donc une proposition de Jean-Baptiste Langlais. Et donc effectivement, il s'agit d'un concours d'urbanisme initialement, donc avec toutes les prérogatives des cités contemporaines, de l'habitation, des commerces, vraiment avec un type de représentation assez classique, comme on pourrait dire. Et dans ce second volet, cette seconde projection, si on veut, on peut insister, dévier, transposer, couper, transformer le vrai langage de l'urbanisme dans sa propre diction qui est l'animation de rituels sociaux.
C'est-à-dire, en fait, visuellement, il s'agit de quoi? Toi, tu as répondu à une commande.
Voilà.
Et c'est intéressant aussi de savoir comment sont orientées les commandes aujourd'hui.
Alors,
ce type de projet qui lie donc un projet d'urbanisme, c'est pas vraiment un projet d'architecture, c'est un projet d'aménagement qui doit s'allier éventuellement logement, en tout cas construction, transport. Comment tu décris?
C'est un site qui est relativement enclavé en fait, qui est comprimé entre deux bretelles d'autoroute,
la 186.
Voilà, la 186. Et qui est un territoire quasi lunaire dans cette partie de Romainville. Et donc tout le travail avec les outils d'urbanistes traditionnels, de réimplantation de programmes, de programmation, de réarticulation des flux. Elle se pose en question de projet, on va dire, standard, avec la réponse que nous avons fait sur le concours, mais avant. Et là, on peut réinterpréter aussi la manière dont on l'a expliqué dans le projet. C'est-à-dire, par exemple, la mise en mouvement qui peut paraître un peu désuet, mais qui est de l'ordre du jeu vidéo, avec des gens qui font du skate, ou des voitures qui passent, ou avec de la musique, ou, etc. Donc, tous ces nouveaux éléments-là, sont absolument pas virtuels, enfin ils questionnent la question de la virtualité, donc de la projection virtuelle, mais ils appartiennent vraiment à la réalité d'une activation d'un site par le projet.
Oui, et ce qui est étonnant, c'est que j'ai appris que les personnages qui peuplent Oasis sont en fait des profils qu'on peut télécharger, des profils disponibles.
Oui, dans la version, l'exposition virtuelle qu'a fait Jean-Baptiste, on a habité en fait le concours par des personnages qui reprennent d'ailleurs les codes de l'architecture, où souvent dans les perspectives, on met des personnages pour donner une échelle. Là, on a fait à peu près la même chose, mais avec des personnages animés qui sont, on ne sait pas. On a sélectionné des personnages qui étaient déjà disponibles sur Internet, évidemment.
Payants, c'est ça ?
Non, qui sont gratuits et qui. C'est des banques de données. On réutilise des banques de données. Voilà.
Donc on peut les customiser et puis on peut diriger leur action, leur mouvement.
Donc là, en l'occurrence, c'est des personnages d'Adobe. Donc il y a une quarantaine de personnages et il y a plusieurs centaines d'animations. Et on peut adapter les animations aux personnages. Donc là, on s'est amusé avec Jean-Baptiste de faire un lien entre les animations et le site, le projet d'urbanisme. Donc il y a des personnes qui marchent, qui utilisent des machines, des Fenwick, qui font du skateboard. Et ça, c'était en dialogue avec l'essence de sa proposition urbanistique.
Donc je reviens à toi. Est-ce que c'est vraiment important cette histoire de kaki et de figues ?
Très, très, très.
Donc il y a des fruits qui s'échangent ?
Ça, c'était déjà une dans le projet initial papier, on va dire, si on veut. Et puis effectivement, c'est vraiment une des données du projet de si je peux faire une petite aparté sur le propos en fait du projet urbain, il a vraiment toute l'esthétique d'une architecture, on va dire, classique, enfin à peu près contemporaine.
C'est un espace en noir et blanc. On a les silhouettes pas vraiment les silhouettes, on a les silhouettes de l'architecture, on voit l'autoroute passer, différentes plateformes, différents étages de bâtiments, et puis une sorte d'allée centrale, ou en tout cas de place commune.
Avec un parc dans lequel on a des fruits. Initialement, le projet, il était de montrer comment un site l'intention du projet initial était de travailler exclusivement sur les questions des flux et de tensions. Donc, comment est-ce qu'on produit et comment est-ce qu'on amène différentes variantes et de variations de la production avec des solutions esthétiques relativement simples. Et en allant sur différents degrés de lecture de ça, donc le fruit, le jardin, et aussi l'oasis, la place où s'échangent les choses devenait très très importante à ce moment-là. Elle essaye de mettre aussi en écho des lieux de l'ordre du mythe et que la cité a toujours bâti, et que là on essaye de retranscrire ou de retrouver de manière un peu plus contemporaine, ou du moins avec un joystick on peut se balader et approcher. Voilà.
Finalement, par rapport au projet que les urbanismes doivent rendre sur papier, enfin, parfois c'est en fichier 3D, je me suis demandé. C'est souvent sur papier.
C'est souvent sur papier, mais il existe des fois, et pas dans tout cadre de différents concours ou de différents marchés, mais il peut y avoir effectivement des vues ou pas de réalité virtuelle, mais il peut y avoir des petites séquences de vidéos 3D où on peut tourner autour des bâtiments, s'approcher. Mais. Enfin, c'est personnel, mais c'est une critique que je peux faire, c'est que souvent l'esthétique qui sort de ces vues, comme au cinéma, ça peut être une petite vidéo. Elle a exactement les mêmes potentialités et les mêmes expressions finalement qu'une perspective. Et donc l'intérêt d'un projet d'urbanisme qui passe sous le filtre de Virtual Dream Center, c'est aussi de remettre en question la question statique de l'outil de l'architecture et de l'urbanisme. Et donc de lui redonner, en fait, enfin pas forcément de lui redonner, mais de l'expérimenter autrement. Voilà. C'est une science et un exercice et un médium relativement statique, même tout le temps. Et donc d'arriver ou de parvenir à lui redonner une autre lecture. Voilà, c'est ça que je pense que l'Oasis fait dans ce Virtual Dream Center.
Alors, vous parlez de phasage. J'aimerais bien que vous développiez cette idée-là.
Alors là, les phasages, Jean-Baptiste, tu veux expliquer, mais c'est typiquement ces techniques, en fait, par rapport à des considérations architecturales.
Voilà, oui. Il s'agit, en fait, le terme de phasage, c'est de réactiver des flux par petits flux. Et donc le phasage, il est projeté, parce que d'ailleurs, en plus, quand vous allez dans l'Oasis avec votre joystick, il y a aussi des rappels, il y a des collages, en fait. Il y a aussi cette question du collage qui est très très importante. Donc il y a des photos et des vidéos du site qui ont été prises et qui sont reprojetées à certains endroits du site.
Je ne les ai pas vues. Il y en a certains. Visite très rapide.
Et il y a aussi les planches du premier du concours, en fait. Donc c'est vraiment cette juxtaposition qui permet de lire. Et effectivement, il est fait état d'un phasage, donc d'un phasage du urbanisme principalement, donc qui est lié par rapport au flux.
En fait, ce qu'on appelle le phasage, c'est les différentes phases de construction.
C'est celles qui vont réactiver le site, qui vont le désamorcer ou qui vont lui donner le retisser, en fait. C'est très spécifique à ce site-là, et c'est pour ça que c'est très intéressant de revoir, en fait, les photos qui sont actuelles, en fait, qui sont présentées dans le...
Ce qui est intéressant, c'est que là, ton travail s'inscrit vraiment dans une autre sphère virtuelle. C'est la manière dont on se représente et dont on se partage le territoire de Paris autour de Paris en ce moment, comme on l'imagine.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous toucher un mot sur...
En fait, c'était un choix à la base de sélection de ce site, ce concours, puisque il y a une énorme expansion vraiment sur la partie nord, sud, du territoire. On parle vraiment d'Île-de-France et c'est un problème spécifique à Paris. Il n'est pas ailleurs. La désertion, on peut appeler ça aussi comme ça, demande à reconstruire de manière un peu violente, excusez-moi, c'est mes propos, mais la première frange d'Île-de-France, enfin de la grande couronne, en fait, si on veut. Et ce projet-là, enfin, Oasis, c'est pas pour le vanter, mais c'est juste de dire qu'il a redonné une potentialité d'aller retravailler avec d'autres médiums, avec d'autres personnes. Ça lui permet peut-être d'être plus juste, en fait, par rapport aux résonances sociales contemporaines.
En tout cas, ça lui permet d'avoir une auto-réflexivité sur ce qu'il est aussi comme projection, j'ai l'impression.
Oui. Mais il est surtout... Enfin, il se veut simple, en fait, aussi. C'est ça aussi qu'il faut... Et il est volontairement aussi... tout à l'heure, il y avait une question qui était assez... Enfin, un thème sur la question des échelles virtuelles qui était projetée. Et je pense que c'est... Tout dépend de l'angle, comment est-ce qu'on le prend, parce que par exemple ici, c'est vraiment la parcelle qui est donnée, on va dire juridiquement, par le concours, qui est découpée. Donc les camions s'arrêtent, tombent, on le voit, on peut se faire écraser aussi, il y a la question du risque, mais on ne voit pas plus loin le paysage. Des fois on peut s'élever, mais ça reste cantonné à ce lieu-là.
On s'élève et il y a ce genre de musique qui arrive et des scènes improbables qu'on ne décrit pas. Voilà.
Non, mais je rebondis parce que, par exemple, Oscar Niemeyer, la question de la grande, grande échelle d'Oscar Niemeyer, je pense que c'est une très, très belle aussi, déjà à prendre à bras le corps, une grande échelle de la question de la foi, d'une grande échelle urbaine, qui est celle aussi que Oscar Niemeyer a traitée. Ça lui rend vraiment hommage, d'une certaine manière. Quoi.
Oui, là, c'est donc, autre chose.
Il y a un vrai collage entre réalité et virtuelle. Voilà, oui, exactement. Et ce collage d'échelles, Il est pertinent. Alors bon, ça dépend comment est-ce qu'on l'angle et comment est-ce qu'on le prend, mais VDC permet ça, pour l'architecture, j'entends. Hein.
Eh bien, je te remercie pour cette petite balade à travers Oasis. Je nous replonge dans l'univers musical de cet environnement et je vous laisse l'imaginer.
Thank you. fig juice. Below.
There is a trans techno concert on the roof.
Let's get a fresh drink.
You always fabricate
Vous êtes de retour dans la réalité radiophonique de l'avenir de l'art. Le verrons-nous à travers le Virtual Dream Center? Alors, on va cette fois parler de l'exposition qui réunit Élise et Fusillé. Fusillé, tu nous présentes un petit peu cette rencontre plastique.
Et oui, je reviens pour parler d'un projet, cette fois en tant qu'artiste invité à participer au Virtual Dream Center. Et ce n'était pas la première fois que je produisais une exposition au VDC, puisque Jean-Baptiste m'avait invité en 2017, je crois, fin 2017, pour l'application, tu vas me dire, Jean-Baptiste
2.0. Il y a 2 ans.
Ouais. C'est ça, il y a 2 ans. Et j'avais produit une exposition assez importante dans la taille. Mais il y en a, enfin, beaucoup des expositions au Virtual Dream Center sont assez vastes. Et ça s'appelait Les Chasseurs d'Ombre. Et donc là, Jean-Baptiste m'a convié à nouveau pour un deuxième opus. Et oui, voilà, dans la première exposition, il y avait plusieurs salles, dont une s'appelait Cryptologie. En fait, c'était des collages que j'avais fait entre 2013 et 2016, quelque chose comme ça, que j'avais laissé dans un fond de tiroir. Et quand Jean-Baptiste a vu, quand je lui ai montré, il a voulu qu'on en fasse quelque chose. Et je me suis dit que c'était le début d'une série. Et donc, quand il m'a proposé à nouveau de participer au Virtual Dream Center, je me suis dit que j'allais présenter le numéro 2 de cette série qui s'appelle Cryptologie.
Et donc ça, c'est le fruit de votre collaboration avec Jean-Baptiste, l'idée de les mettre en algorithme, en fait, d'en faire des volumes, une forêt de volumes.
Alors, si je me permets de t'interrompre, c'est plutôt l'idée d'Élise, c'était plutôt d'avoir cette édition et de l'éparpiller dans un univers virtuel. Et l'algorithme, c'était une solution qu'on a trouvée pour produire un effet de vastitude et d'une densité, d'un feuillage de l'ordre de la forêt.
Donc à la fois déterminé par le mouvement que le visiteur peut suivre, le mouvement d'une caméra, et la structure de l'espace, c'est quasiment infini.
C'est-à-dire que quand l'exposition se lance, un algorithme se déclenche et éparpille énormément de fragments de collages qu'a réalisé Elise dans ce qu'on appelle un monde ouvert en jeu vidéo, donc un espace extrêmement vaste.
Et une lumière très sombre et des événements que tu as ajoutés aussi pour qu'il n'y ait pas du tout de monotonie qui s'installe. Donc des arrivées d'éclairage particulier, un petit peu rasant, et des pelouses. Et c'est là que ça a pris, j'imagine, une dimension un peu plus végétale.
Exactement. Mais ça, c'est ça qui a été intéressant avec ce projet. Ça a été vraiment un travail en collaboration. C'est là où Fusillé co-signe l'exposition. C'est vraiment lui qui a amené le positionnement des éléments dans l'exposition.
Enfin, pour repartir un petit peu plus avant, dans l'exposition précédente qui s'appelait Les Chasseurs d'ombre, c'était extrêmement structuré. Il y avait un espace central et puis quatre espaces qui étaient attenants à cet espace central. Et du coup, en fait, j'ai voulu prendre le contre-pied de cette première proposition. Et l'espace que j'ai produit a des règles de réalité virtuelle qui sont assez anarchique, chaotique. Et donc, il y a plusieurs principes qui composent cette réalité virtuelle. En fait, comme tu disais, Jean-Baptiste, Joe, qui est Fusillé et qui a aussi un label, je le dis entre parenthèses parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, qui a un label process. Qui s'appelle Tense Process et que je vous invite à aller regarder. Il a fait une composition sonore spatialisée qui donne une structure en fait à l'espace qui est sinon est complètement comme une forêt dans laquelle on se perdrait jamais.
C'est vrai que donc pour aussi mieux se représenter les choses, ces collages sont déstructurés, donc ils sont pas en une dimension et c'est pas des feuilles que l'on voit visiter, c'est plutôt un feuillage comme s'ils avaient tous été froissés avant d'être jetés dans une poêle en papier par exemple.
Oui, c'est ça, exactement.
Un ensemble de froissage. Et donc Fusillé, lui, il est plutôt du côté de la musique extrême, expérimentale, mais aussi très ciselée, avec une tendance à la musique plus concrète. Mais là, Guillaume nous en dira un peu plus tout à l'heure, suspense. Mais donc lui, il a repris les codes de spatialisation qui sont un peu en écho à la musique concrète, surtout la musique acousmatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment composé en imaginant les déplacements et les possibilités de superposition des fréquences. Et donc, il a déterminé comme ça tout un circuit sonore sur lequel vous avez calé l'espace.
Tout à fait. En fait, Fusillé a fait une composition musicale. Lui aussi, en fait, s'est adapté au médium. Et il a adapté son processus de composition à l'espace virtuel. Et donc, il a produit une somme vraiment considérable d'éléments sonores qu'il a ensuite dispatchés de manière spatialisée. Et il a fait un travail très précis dans cette spatialisation, qui correspond en fait réellement à la composition de sa pièce.
Voilà quelques extraits qui viennent envahir les voix. Comme tu m'as un peu plus précisément décrit, Jean-Baptiste, le travail qu'il y a eu sur ce paramétrage d'exposition, cette exposition en particulier, tu m'expliquais que le moteur de jeux vidéo que tu utilises, que tu finis par encoder un peu plus précisément, est très puissant et complexe.
Disons que oui. Le logiciel qu'on utilise, qui s'appelle Unreal Engine, c'est un logiciel très vaste et complexe et qui est utilisé aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi du cinéma. Et nous, on l'approche d'une manière très do-it-yourself et on le détourne aussi d'une certaine manière. Et au fur et à mesure des applications, on approche certains de ces aspects. Là, avec l'exposition d'Élise, ça a été l'occasion aussi de travailler la possibilité de génération procédurale. Donc c'est ça en fait, c'est cette dimension de quand on lance son exposition, une somme énorme de collages, la disposition se génère dans l'espace. Et chaque fois, elle est différente. Et ça, c'est tout à fait typique de ce genre de logiciel.
Et c'est là aussi où il y a une nouvelle dimension qui dépasse, qui prolonge le travail de l'artiste et du musicien. C'est la possibilité de les réunir et de créer cette sorte de parcours et d'espace qui vient ramener une poésie supplémentaire, sens.
Ce qui est assez beau, c'est que là, dans leur collaboration, il y a vraiment une fusion dans la dimension visuelle et sonore. Et c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on cherche et qui, pour moi, vient de l'art vidéo, d'une certaine manière. C'est le rapport entre la bande-son et la bande-image.
Élise, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient d'évoquer ? Ce troisième acteur qui est l'arrivée dans le virtuel et les possibilités concrètes de déplacement et de dimensionnement de votre travail à toi et à Fusil.
Bah, en fait, je ne sais pas si je vais ajouter quelque chose dans ce sens-là, mais j'étais en train de penser au fait que, en fait, c'est comme cette réunion-là, c'est comme c'est une réunion heureuse de personnalités différentes. Et en fait, Jean-Baptiste n'est pas du tout extérieur au projet parce qu'il ne le dira pas, il ne le dit pas, mais il est quand même vraiment très présent. Et par exemple, ces algorithmes-là qu'on a créés dans cette exposition, sans lui, ça serait absolument impossible parce que j'en serais incapable. Donc, enfin voilà, le projet est une collaboration avec Fusillé et qui est chapeauté grandement par Jean-Baptiste. Voilà, je peux le dire, Jean-Baptiste.
C'est ça, mais en fait, c'est aussi tout le projet qu'on mène, c'est aussi d'amener des artistes qui ne sont pas familiers à des technologies de l'ordre de la réalité virtuelle à faire des choses. Et là, c'était vraiment intéressant qu'Élise, quelque part, ne touche pas du tout la partie informatique et que son travail se concentre sur une production de collage. Et c'est vraiment tout l'intérêt du projet. C'est pas de l'art numérique. C'est là où, quelque part, peut-être, ça dévie de ce qu'on qualifie habituellement d'art numérique.
Avant de laisser la parole à Guillaume Constantin pour le dernier opus de cette application, dernière exposition, le nom que vous avez trouvé avec Fusillé, Albache, comment tu peux prononcer ?
En fait, comme je te disais, c'est une réunion d'individualité. Et si tu veux, Joe, il a travaillé de son côté sur le projet, moi du mien. Et donc finalement, en fait, on signe ensemble parce qu'il y a une part égale de nos gestes, de travail. Mais en fait, Cryptologie, c'est un projet que j'ai développé en amont. Et donc, c'est un titre générique que j'ai donné à un projet que je voudrais continuer. Et Albache, c'est le titre de cette exposition. Et en fait, qui fait référence à un premier chiffrement d'alphabet hébreu. Voilà, c'est le premier chiffrement en cryptologie. Et cryptologie, c'est la science des codes secrets et des alphabets cachés.
Et là, c'est plutôt l'esthétique du masque, des superpositions dans tes collages.
Ouais,
on est plus proche de tomber sur un document à décrypter qu'un document décrypté.
Exactement.
Très mystérieux, tout ça. Bon, bah, merci beaucoup pour cette présentation. On reste quelques instants immergés avec la musique de Fusillé. Et puis, on va passer à notre dernière exposition. Constantin. Le dernier espace du Virtual Dream Center, Panopticum et Effigy, pour relier avec une actualité, une exposition dans la vie réelle. Tu présentes actuellement Matériothèque avec les instants chavirés à la brasserie Bouchoul à Montreuil. Et tu viens justement d'inviter
Virtual Dream Center aussi a présenté publiquement l'application, où on découvre donc cette partie sur laquelle tu as travaillé, exposition virtuelle. Et tu as invité également Fusillé à faire un concert. Ça, c'était il y a une semaine, c'est ça ?
C'est ça.
L'exposition est visible jusqu'au 10 novembre dans la réalité et téléchargeable dans l'application. Mais ce ne sont pas les deux mêmes expositions, mais il y a quand même un parallèle que tu vas nous aider à résoudre. Voilà.
Mais en fait, ce projet avec le Virtual Dream Center, pour le coup, dans l'exposition, c'est vraiment une exposition dans l'exposition. Exactement les mêmes éléments comme tu dis dans la vie réelle et puis dans l'application, c'est vraiment les mêmes moteurs. La particularité du projet avec le Virtual Dream Center, c'est que moi j'avais jamais touché à ces outils là et j'avais pas forcément d'appétence a priori pour ce type d'outils, mais en découvrant Jean-Baptiste et tout le travail qu'il fournit, j'ai vraiment eu un choc un peu de me rendre compte des enjeux de ce genre d'application sur rien simplement sur la notion d'exposition. Donc à partir de là, son invitation m'a fait pas mal cogiter, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, de m'équiper, de rentrer un petit peu dans la chose. Et puis il y a eu un élément déclencheur très important, c'est que Jean-Baptiste a récupéré une application d'un musée virtuel déjà constitué.
Oui, donc à la différence en tout cas des expositions précédentes, où on est dans un espace un peu plus ouvert, là on est à nouveau dans un bâtiment, ce qui peut faire écho à une exposition traditionnelle, d'autant plus que c'est, donc comme tu dis, une modélisation d'un musée qu'on peut acheter en ligne, qu'on recostumise entre guillemets. Et après, bon, là c'est tout là que tu as mis en œuvre pour l'habiller, c'est qu'on n'a plus l'impression d'être dans un espace fermé.
C'était peut-être pas exactement ma volonté au départ, mais effectivement il y a un jeu de projection après dans le fait de l'habillage, du plaquage, qui est tout ça c'est un vocabulaire de sculpture mine de rien. Même si on est dans un espace virtuel, il y a cette navigation, le rapport à l'espace, on retrouve tous les grands paradigmes pour le coup de la sculpture traditionnelle et puis qui plus est du musée. Et là, avec le jeu de démontage qu'on a opéré, c'était assez plaisant. Mon travail procède beaucoup de... On est vraiment dans des... On tire un petit peu sur sa question de ready-made, là, d'un musée idéal, générique, qui est un peu moche à l'origine. C'est un truc très, très typé, complètement international, avec ce que ça veut dire de manque de personnalité. Donc là, le but du jeu était de réintégrer toute une forme subjective dans ce musée, donc en enlevant plein de choses, en rajoutant d'autres et en repersonnalisant effectivement les murs et ce qu'il y a dedans en fait, quoi. Donc voilà, un jeu de déconstruction et de reconstruction qui est effectivement visible. Et dans l'exposition à Montreuil, j'ai procédé un petit peu la même chose. Il y a une invitation qui a été faite à tous les artistes qui sont passés par la brasserie Bouchoul, qui m'ont fourni des matériaux pour construire une sorte de, parce qu'on donne de palais de mémoire comme la vieille tradition mnémotechnique ancienne en fait. Donc c'est un peu un palais de mémoire en réel et on retrouve une autre forme de palais de mémoire dans le panopticum. Donc, il y a toujours un truc du passé qui vient de glisser là-dedans et qui est rejoué d'une manière à la fois physique dans l'exposition et puis physique aussi, parce que quand on est avec un joystick devant un écran, il y a la physicalité qui rentre en ligne de compte, ce qui est pas tout à fait ce qui se passe peut-être au cinéma. On a une physicalité mais qui est peut-être pas du même ordre. Là on a un truc des joysticks, d'être debout devant un espace qui bouge, enfin, il y a quelque chose, un rapport qui est vraiment celui de l'ordre de l'exposition.
Ce qui est intéressant, c'est que en l'occurrence, ce dispositif du Virtual Dream Center, et déjà il remet un petit peu en question notre l'idée des dimensions de l'œuvre en soi, qu'elle soit sur papier pour les collages qui prennent des dimensions, qui prennent des troisième dimension. Et pour le projet d'Élise, je pense aussi au fait que les sculptures de Nathalie, pour la première exposition dont on a parlé, peuvent s'animer et donc être habitées d'une nouvelle possibilité. On dépasse complètement... je ne sais pas si on dépasse... Oui, je pense qu'on dépasse les médiums traditionnels. Toi, Guillaume, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans ta personnalité, dans ta manière de travailler, d'une part, tu n'es pas que artiste et tu es aussi commissaire d'exposition. Donc, tu as déjà plusieurs manières de te rapprocher ou de t'éloigner de l'œuvre. Et en plus, dans ton œuvre, c'est une œuvre où tu invites et où tu réutilises et où tu détournes des objets d'art préexistants.
Donc il y a une sorte de mise en abîme où j'ai l'impression qu'on peut plus se rattacher à une étiquette, une définition, une forme en particulier, qui a une possibilité d'expansion qui est difficile à définir. Toi, tu disais pourtant que c'était typiquement une exposition.
Oui, après, avec effectivement, je reprendrai ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste, à savoir que le Mu Virtual Dream Center est vraiment un projet multidimensionnel, et en fait, j'ai l'impression que peut-être un des termes qu'on peut accoler à l'exposition aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est quelque chose de multidimensionnel où ça se déplace dans des dimensions différentes, des sources différentes, des enjeux différents. Nous, l'expo aussi, je m'évertue à avoir des invitations de tout ordre. On parlait de Huliguier, alors c'est pas moi qui l'ai invité, c'est Jean-Baptiste, vraiment par le biais du projet avec Élise. Il est venu se greffer au projet, mais ça allait vraiment dans le sens de l'exposition, où il y a l'exposition, il y a un certain nombre de performances tous les dimanches dans l'exposition, là, jusqu'au 10 novembre. On a des événements avec Violaine Nochu, demain, dimanche avec Dominique Petitgrand, etc. Des activations sur un rapport aux matériaux à l'exposition qui sont dans des temporalités différentes. Et c'est ce qui me semble vraiment intéressant de naviguer sur différents plans entre des formes plastiques statiques, des formes plastiques qui bougent, des formes virtuelles qui bougent, des formes virtuelles qui sont un peu statiques. Mais c'est nous qui nous déplaçons à l'intérieur, etc. Voilà, il y a un jeu multicouche là, de stratification qui peut peut-être ressembler un peu à quand on tape sur Google Images, on indexe un mot, il y en a des tas de trucs qui sortent, qui sont tous mis au même niveau. Il y a un petit peu ce genre de question qui vient de glisser dans notre rapport à l'image et peut-être à plein de formes qui passent par l'écran et puis en dehors de l'écran aussi, en fait, quoi. Donc,
et si on revient dans des questionnements aussi plus classiques, des enjeux de l'exposition tels qu'on en hérite, c'est... D'une manière de montrer l'art, de le partager, de penser aussi à la possibilité qu'a le public d'éventuellement s'approprier un peu plus ce qui va lui être montré. Est-ce que vous pensez que là, il y a une dimension émancipatrice de ce côté, de laisser la place un peu plus aux visiteurs de cette application, Jean-Baptiste ?
Ça, c'est intéressant que tu parles de ça. On essaye de. Là, c'est qui rejoint la question du public. Dimanche dernier, quand on a présenté l'application, on a fait la sortie officielle de l'application aux Instants Chavirés. C'était assez étonnant de voir à quel point les enfants, les ados, mais même des très jeunes enfants s'amusaient à jouer. Dans les expositions virtuelles. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous motive. Après, voilà, ça rejoint la question de la réception des œuvres d'art. Et c'est un peu du cas par cas à chaque fois. Et peut-être, Guillaume, tu peux En fait, c'est vrai que moi, ce que je trouve assez excellent dans ta proposition, c'est l'attention à ces détails-là, comme par exemple tout le travail que tu as fait sur les légendes des œuvres. Alors peut-être que tu peux en parler un petit peu.
Ouais. En fait, c'était un des principes qui me plaisait bien, c'est de réemployer un musée. Avec Jean-Baptiste, il y a une histoire de cartel dynamique où, au fur et à mesure où on se déplace, on croise des œuvres. Alors que ce soit des fichiers empruntés, des fichiers open source récupérés, réintégrés, ou des œuvres déjà présentes dans le musée.
Oui, ce qui est intéressant, ce qu'on peut souligner, c'est quand même qu'il y a des œuvres qu'on a pu éventuellement voir au Louvre, ou en tout cas de ces époques-là, qui sont libres de droit.
Et qui donc sont intégrées. Alors elles sont libres de droit, ou alors l'application, les gens qui ont fabriqué l'application ont acheté les droits d'exploitation de ces scans qui sont extrêmement précis et très détaillés. Alors, on rentre vraiment dans un truc qui est particulièrement précis et du coup qui dépasse même une qualité simplement documentaire. On a un effet qui est assez saisissant dans la qualité de ces choses-là. Et voilà, et de faire rentrer ces différentes données, et en plus du coup quand même qu'on reste dans le cadre strict, peut-être pour ça que je disais tout à l'heure d'expo traditionnelle, où tu posais la question du fait de rester dans une navigation avec des heures, avec des cartels, sauf que le dispositif du Virtual Dream Center là, dans ce cas précis, nous permet d'avoir à la fois quelque chose d'une dynamique générale qui est assez différente.
Je pense qu'il y a un parcours qui est différent.
Qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le moment où on recycle finalement l'archétype de visite, des archétypes d'œuvres, et certains archétypes d'espace, mais évidemment, on réactualise par des choix en creux, par défaut, ou par un apport de son et d'une atmosphère, là qu'on choisit, qui du coup est peut-être un petit peu plus autoritaire, mais qui permet une immersion totalement différente. Le musée par essence quelque chose d'autoritaire. Là, on joue avec ça d'une certaine manière, quoi.
Je trouve qu'il y a quelque chose de séduisant qu'on n'a pas évoqué, qui est insidieux, mais c'est aussi la temporalité. Et là, il y a une sorte d'accès possible qui est aussi lié à une liberté de rester autant de temps qu'on veut.
Complètement, même de sculpter, on peut même s'approcher très près. C'est là ce qui est étonnant avec ce musée de réalité virtuelle. On peut même vraiment aller dans les détails, et puis on a travaillé dans ce sens-là aussi.
Ouais. De rien y faire même.
Absolument.
De profiter de l'espace. Quoi.
Et le son a été fait par Benjamin Laurent Hamon, qui est un artiste sonore, qui fait beaucoup d'installations sonores, qui a vraiment une pensée à l'espace. Là, la bande son, elle préexistait par rapport au projet. C'est un enregistrement qu'il avait fait. Et il avait pensé, c'est un morceau qu'il avait écrit en pensant à un jeu vidéo en pause, mis en pause. Donc ça allait tout à fait dans le sens du projet. Là, on a une belle collusion du son et de. Voilà, c'est encore une autre modalité, peut-être, de mêler le son et l'image. Mais là, effectivement, il y a un climat très précis et une relation conceptuelle à la base qui est assez chouette dans la. Une forme de collage en tout cas entre une chose plus ancienne qui se raccorde au projet fait avec Jean-Baptiste en fait.
Mais pour poursuivre dans cette direction, c'est vrai que quand il y a les premiers articles qui sont parus sur l'art numérique, les premières fois qu'on a nommé un peu le game art, les questionnements sont arrivés sur les possibilités d'avoir une nouvelle forme d'expérience artistique, mais ça c'était déjà il y a presque 30 ans. Est-ce que toi qui as travaillé, Jean-Baptiste, sur la théorie, qui a approché la théorie du cinéma et qui a décidé de t'extraire de la simple installation d'une vidéo avec éventuellement une interaction avec la musique live et d'arriver à un vrai objet où tout serait lié, est-ce que toi tu vois un prolongement? Je sais que ce serait intéressant que tu nous parles des références que tu m'avais suggérées comme artiste.
Oui, il y a toute une le projet qu'on fait, il s'inscrit dans une histoire qui est déjà extrêmement riche. Dans la réalité virtuelle existait technologiquement au début des années 90. Donc il y a eu dans les années 90 des œuvres très fortes avec ça. Je t'avais donné comme une des références qui nous est chère, c'est le musée virtuel de Chris Marker. Donc voilà, il y a plein de choses qui nous ont marqué. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment chacun se réinvente en fait ça, et ce qui est stimulant dans ce projet, c'est que c'est à chaque fois d'inviter des artistes. Et que ça soit une carte blanche et que chacun réinvente ça et de manière personnelle.
Est-ce que tu arrives à envisager ce qu'il peut y avoir de. Tu m'expliquais que ce n'était pas une forme qui était encore bien convenue, parce que là, tu en parles en termes convenus, comme on pourrait, comme un commissaire d'exposition, dans n'importe quel lieu concret existant, on pourrait inviter à faire une carte blanche, une installation dans l'espace. Est-ce que tu perçois quand même ce qu'il peut y avoir de différent? Pourquoi c'est un objet qui n'est pas encore. Remarqué à la hauteur de son potentiel.
Je dirais que pour moi, le jeu vidéo, c'est un peu un cliché de dire ça, mais je le pense vraiment. Ça correspond au cinéma au XXe siècle. Là, aujourd'hui, le cinéma, ça a été intégré dans le champ de l'art contemporain. Le jeu vidéo, c'est en train de devenir, mais c'est pas du tout le cas. Et je pense que ça sera un art majeur de notre siècle. Et on est au tout début de la chose. Et là, c'est en train d'arriver. Il y a de plus en plus d'artistes qui présentent des œuvres, des jeux vidéo. Mais on est vraiment au début de la chose. C'est, en tout cas, en tant que médium, c'est très vaste et c'est assez fascinant. Les possibilités sont fascinantes.
Et par rapport à Ballard ou à James Ferraro?
James Ferraro, c'est un artiste qui, musicalement, a embrassé toute cette culture du virtuel, mais et d'une manière critique aussi, mais musicale. Et Ballard, il a anticipé cela dans les années 60 avec des, par le biais de la science-fiction. Voilà. C'est des grandes références pour nous. Mais c'est même des goûts personnels en réalité.
Est-ce que tu es venu un peu par la réflexion du cinéma à cette interactivité
Oui, dans mon parcours personnel, le jeu vidéo remplace la vidéo, pour être rapide, ou ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est cette dimension de spatialité. On passe de la 2D de l'écran à une tridimensionnalité, et aussi à l'interactivité où le visiteur, en se déplaçant dans l'espace, génère de l'image vidéo, et d'une manière inattendue. Voilà, ça crée du hasard, ça crée des événements imprévus, et ça, c'est des dimensions très intéressantes.
On va toucher à la fin de cette petite parenthèse virtuelle. Guillaume, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose sur le sujet. Toi, quand tu as découvert Virtual Dream Center, tu l'as un peu classifié où dans ta database théorique?
C'était peut-être pas tant une base théorique, simplement en tant qu'artiste ou voire même en tant que commissaire, on a tous nos paramétrages. Moi, j'ai juste vu une manière supplémentaire de penser l'exposition. Donc du coup, là, avec exactement comme un commissaire dans SketchUp, pouvoir penser son exposition en déplaçant les objets, là, j'ai vite vu que je pouvais peut-être arriver à ce genre de truc par ce biais-là. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était qu'en fait, il y avait aussi des possibilités de collaborer, de travailler, pas tout seul, justement, et d'amplifier un petit peu les enjeux. Et puis aussi, simplement, de donner peut-être un petit peu confiance, parce que c'est tout un appareillage qui est un peu impressionnant quand on n'est pas dans la technique. Avec Jean-Baptiste, c'était plutôt bien, ça m'a mis dans des rails qui font que je vois une extension possible de mon... sur simplement toutes les questions autour de la sculpture que je me pose en général. Donc, médium traditionnel, comment... comme tu disais tout à l'heure, comment on peut peut-être prolonger ce truc-là, cet aspect-là d'un champ artistique, moi, qui me touche particulièrement, comment ce biais-là m'emmène un petit peu ailleurs. Et la dimension, moi, qui me plaît beaucoup, c'est le caractère sonore de tout ça. Moi, j'ai travaillé aux Instants Chavirés depuis des années, donc...
C'est vrai qu'on célèbre tes 15 ans, là, avec cette exposition.
Voilà, donc je vieillis un grand coup, là. Et du coup, là, je vois une connexion possible de la question sonore. On en a parlé avec Fusillé, etc. Il y a des tas de connexions esthétiques. Et puis, il y a aussi un enjeu de forme. Alors, le mot est peut-être un peu désuet, de forme audiovisuelle, mais mine de rien, c'est pas rien.
C'est vrai.
Par rapport, moi, au chant d'où je viens, qui est un truc plus classique et plus sculptural, là, il y a un vrai exutoire là-dedans.
Très bien. Je vous remercie pour ce walkthrough. Cette application, cet artist run space, cette œuvre audiovisuelle, eh bien non, je pense qu'il faut trouver des nouveaux termes, on est d'accord. Donc Let's Play, l'application est donc téléchargeable gratuitement en fonction de votre version d'ordinateur. Nous vous remercions pour votre écoute et merci à tous. Merci Jean-Baptiste, un petit mot. Merci à tous, bonne soirée et bientôt pour le prochain épisode de l'Avenir de l'Art sur Radio Campus Paris.